Décryptage, Marie Cazadebé.
C'était il y a deux mois, à plus de 300 km au nord de Kinshasa, le territoire de Yumbi basculé dans l'horreur. Au moins 535 civils tués en 48 heures. Des casques bleus et des militaires congolais découvraient quelques jours plus tard une cinquantaine de fosses communes. Première explication donnée par les autorités locales, des affrontements communautaires. Mais plus les enquêtes progressent et plus la piste d'un massacre organisé et ciblé contre une ethnie est privilégiée. Notre invité, le journaliste Anthony Fouchard, s'est rendu sur place il y a deux semaines. Son reportage a été diffusé hier soir sur TV5 Monde. Bienvenue dans Décryptage.
L'abbé Nestor a perdu 25 membres de sa famille.
On n'en parle presque pas. On n'a pas dit aux gens exactement ce qui s'est passé. Imaginez, il y a eu des centaines de morts, des tueries, des massacres, disons un génocide, mais on n'a même pas organisé un deuil national. Et que les morts sont restés autant de jours sans sépulture.
Bonsoir Anthony Fouchard.
Bonsoir.
Voilà comment commence votre reportage. Vous êtes rendu à Bongende, le village le plus touché par ces massacres, un peu plus d'un mois après les faits. Vous étiez accompagné de rescapés, des rescapés rares, hein, car peu de gens en fait peuvent témoigner aujourd'hui de ce qui s'est passé à Bongende.
Exactement, il n'y a plus personne en fait à Bongende. Hein. Quand on revient dans ce village-là, un tout petit port permet d'accéder à ce village, très très enclavé, et toutes les maisons ont été détruites, la majorité en tout cas. Ce qu'il reste, ce sont des fosses communes. Plus on parcourt les rues du village, plus on croise effectivement des tombes, alors individuelles, et puis de temps en temps de plus gros charniers qui ont été creusés par les autorités qui sont arrivées ensuite quelques jours après, creusés par la Croix-Rouge également, pour enterrer ces corps qui avaient été tout bonnement laissés sur place dans ce village.
Ça veut dire qu'il est impossible aujourd'hui pour les habitants de Bongende de revenir dans ce village ?
Impossible, il n'y a plus rien. Les écoles, les centres de santé, il y en avait au moins deux, l'église, tout a été détruit. Il n'y a absolument plus rien, tout a été brûlé, mis à sac, pillé. Il y a une vraie volonté, en tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre en se baladant dans ces rues, de faire disparaître ce village de la carte, de le rayer de la carte totalement.
Alors à vos côtés, lors de votre visite à Bongende, l'abbé Nestor Longota, qu'on a entendu à l'instant, toujours abasourdi par le spectacle qu'offre aujourd'hui son village.
On se moque des gens. Vous voyez des restes qui sont là. Et on dit aux gens de rentrer. Imaginez, ce sont des bêtes ou bien des êtres humains qui ont une mémoire et une sensibilité. C'est de la blague. Il n'y a rien qui se fait. On ne prend même pas soin d'entretenir le village. Mais on dit aux gens de rentrer. Vous voyez vous-même le village. La nature est en train de reprendre ses droits. Mais les gens doivent venir avec, comme ça, des cadavres dans les placards. C'est regrettable ça.
Les tueries ont eu lieu les 16 et 17 décembre dernier, au moins 535 personnes tuées selon les Nations Unies. Anthony Fouchard, le village de Bongende n'a pas été le seul touché. Quelle zone finalement a été concernée par ces massacres ?
Alors plusieurs zones, et puis vous dites 535 tués, c'est vrai que c'est le bilan le plus bas qu'on puisse donner, puisque dans la majorité de ces villages qui donnent sur le fleuve Congo, il y a le fleuve, la rivière, et des dizaines au minimum de corps ont été jetés dans le fleuve, c'est ce que décrivent les rescapés, ceux qui ont réussi à s'enfuir, donc c'est un bilan largement sous-estimé, en tout cas pour l'instant, c'est le nombre de corps qui ont été enterrés. Exactement.
Et c'est des centaines de morts, en tout cas sur une toute petite superficie.
Exactement. Le village de Bongende est situé, par exemple, à une dizaine de kilomètres maximum de Yumbi. C'est la deuxième ville qui a été attaquée. Là, on dénombre 166 morts, en tout cas enterrés. Un troisième village où là, les bilans sont un peu plus bas, Nkolo, encore juste à côté. On parle en termes de kilomètres, moins d'une dizaine de kilomètres. Et enfin, un quatrième où là, effectivement, on parle seulement de quelques morts, même si c'est déjà trop, tout dans la même circonscription, si je puis dire, dans une toute petite périphérie.
Alors ce déchaînement de violence a provoqué aussi la fuite d'au moins 16 000 personnes vers le Congo-Brazzaville, juste de l'autre côté du fleuve. Officiellement, on parle de conflit communautaire, c'est l'explication en tout cas du gouverneur de la province, d'un conflit entre les Batende et les Banounou. Anthony Fouchard, est-ce qu'il existait auparavant des tensions entre ces communautés ou même de précédentes tueries ?
Oui, effectivement. En fait, pour être très concis, à chaque élection, 2006, 2011, il y a eu des affrontements entre Banounou et Batende. C'est-à-dire la période électorale est toujours propice à des affrontements, et j'insiste sur ce mot-là, c'est-à-dire des morts de part et d'autre. Les deux communautés qui s'affrontent, alors j'ai pas les bilans forcément en tête pour les précédentes élections, mais ce qui change aujourd'hui, enfin ce qui a changé en décembre, c'est qu'on parle d'un massacre unilatéral. Une communauté, les Batende, ont attaqué l'autre, les Banounous, et on ne parle pas du tout d'affrontements ou de heurts intercommunautaires. Il y a eu des personnes qui en ont tué d'autres, et dans un seul et même sens.
Et ça veut dire que finalement les victimes ne sont que Banounous, et les assaillants que Batende. C'est ce qu'il ressort en tout cas pour l'instant des enquêtes.
Alors en tout cas la majorité des assaillants étaient Batende, puisque les enquêtes prouvent aussi ou tentent à prouver pour l'instant qu'ils étaient accompagnés de militaires, de démobilisés, de déserteurs. Le terme reste flou, mais en tout cas la tactique militaire est évoquée dans toutes les enquêtes, ce qui explique aussi le bilan extrêmement élevé sur une période restreinte. On parle de 2 jours. Mmh. Pour Bongende, les assaillants sont restés moins de 8 heures dans le village, ce qui est déjà énorme, mais en 8 heures plus de 300 personnes tué.
Dans les témoignages que vous avez recueillis aussi, qu'on peut entendre dans votre reportage, on entend que vraiment c'était des victimes ciblées. On a cherché aussi à les reconnaître, à connaître leur ethnie. Qu'est-ce qu'on a pu vous raconter justement de cette quête du Banounou?
Alors il y a beaucoup de témoignages que nous n'avons pas pu diffuser, bon, d'une part à cause du format, d'autre part pour éviter les représailles sur des personnes qui sont toujours dans la zone et qui avaient peur tout simplement d'être reconnues. Il y a un témoignage pourtant très intéressant, celui-là qu'on a diffusé, c'est d'une enseignante. Elle est ni Banounou ni Batende, elle fait partie d'une autre ethnie, et elle a reconnu les tueurs, c'était ses élèves, certains de ses élèves en tout cas, et d'autres personnes avec qui ces tueurs étaient, ne la connaissaient pas, ont voulu également l'a tué, et les élèves l'ont protégé. On dit non, elle n'est pas du tout Banounou, elle a dû s'exprimer dans sa langue, dans une autre langue, pour prouver qu'elle ne faisait pas partie de cette communauté. Et elle décrit cette scène-là, elle décrit aussi qu'avec d'autres personnes, ils ont été épargnés, emmenés dans un autre village, sur la base de l'appartenance à une communauté.
C'était vraiment donc une ethnie recherchée par les assaillants. On parlait de la version officielle, celle d'affrontement communautaire. Il y en a une autre, c'est l'élément déclencheur de ce massacre, un litige autour de l'enterrement d'un chef coutumier Banounou. Des Batende auraient perçu ce geste comme un affront, un enterrement sur ce qu'ils considèrent comme leur terre. En quoi les témoignages des rescapés contredisent justement la thèse d'une poussée de violence spontanée?
Alors, les témoignages des rescapés et les témoignages de ceux qui sont accusés, aussi présumés en tout cas, faut garder en tête cette chronologie. Cet enterrement dont vous parlez, il a lieu le 14 décembre, dans la nuit du 14 au 15 décembre. Le chef coutumier, lui, est mort plus de 15 jours avant. Il est mort tout début décembre. Dès cette période-là, les gens qu'on a pu rencontrer, les rescapés, témoignent d'informations, de bribes d'informations, de remontées d'infos. Il va y avoir quelque chose, vous allez être tué, vous allez être traqué, faites attention, partez. On est 15 jours avant l'enterrement. Et le jour où cet enterrement se produit, effectivement, là il y a cette éruption de violence dès le lendemain, quelques heures après. Alors effectivement, ce conflit-là est intrinsèquement, il y a deux problématiques intrinsèquement liées. Il y a ce conflit foncier, c'est Banounou, c'est Batende, qui revendique le droit sur la terre, qui est arrivé le premier. Ce qui en soi est une chose assez commune dans ces régions-là. Ce conflit, il existe, mais il a été cette fois-ci instrumentalisé et envenimé à des fins a priori politiques.
Et l'autre point, justement, qui va dans le sens de cette dernière thèse, c'est la description que les rescapés Banounou font de leurs assaillants. Vous l'avez évoqué. Vous allez entendre là un témoin des massacres, puis le colonel Olivier Gassita, l'administrateur par intérim du territoire de Yumbi. C'est lui qui dirige l'enquête congolaise. Et je précise juste que le mot « tiene » est aussi utilisé pour parler des Batende.
Quand ils étaient sortis, ils avaient assassiné quelques personnes et nous autres, nous avons pris la fuite. Mais sous nos yeux, nous avons vu aussi comment est-ce que les tiennes coupaient donc les petits enfants en morceaux sur le bord du fleuve là où nous étions là-bas. Nous avons vu les militaires accompagnés avec les peuples tiennes. Les peuples tiennes venaient derrière les militaires et aussi possédaient les armes, y compris aussi les machettes et ainsi de suite. Là. C'est-à-dire les choses toujours à tuer les gens.
Clairement, il y avait une organisation qui les commandait. Ils ont fait l'attaque suivant les 3 colonnes. Ça, c'est une tactique militaire. Donc, ça se voit qu'il y avait des militaires déserteurs ou démobilisés dedans.
Anthony Fouchard, le colonel Gassita que vous avez rencontré, parle de militaires présumés parmi les assaillants et de techniques militaires dans l'assaut donc mené les 16 et 17 décembre dernier. Concrètement, comment ça s'est traduit? À quoi voit-on justement qu'il y a des techniques presque militaires dans la façon dont les assaillants donc s'en sont pris au Banounou?
Mais il parle de cette tactique des 3 colonnes dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs petits groupes d'assaillants. Ça a été confirmé et par les rescapés et par l'enquête, en tout cas qui est dirigée par le colonel Gassita, plusieurs groupes d'assaillants qui ont attaqué à plusieurs endroits différents pour prendre en étau en fait ce village, notamment Bongende. Ce que vous voyez bien dans le reportage, à un moment donné, on a des images aériennes, on a une route qui permet d'arriver de la terre, si je puis dire, du continent, et un bras de fleuve. Et donc ces deux seules entrées de la ville ont été bloquées. Ceux qui tentaient de fuir par le fleuve étaient attendus par d'autres assaillants. Ceux qui tentaient de fuir à l'inverse vers la brousse ont été attendus encore par d'autres groupes de tueurs. Il y avait une vraie stratégie. Ils étaient équipés de radios. Ils étaient ravitaillés, semble-t-il, en essence pour brûler toutes ces maisons. On a plusieurs rescapés et également le colonel qui confirme ces échanges avec des talkie-walkies. Nous n'avons plus d'essence. Il faut nous en ramener à tel endroit. On n'est pas dans une éruption comme ça spontanée de violence. En tout cas, ce niveau d'organisation qui nous a été remonté ne correspond pas à des affrontements intercommunautaires.
Et ce qui est frappant aussi, c'est, vous l'avez dit, les massacres durent 2 jours, 48 heures, plusieurs centaines de morts. Comment ils s'arrêtent? Est-ce qu'il y a l'intervention de forces de sécurité? Comment on met fin à un massacre comme celui-ci?
Alors ça reste assez flou, la temporalité en fait est assez confuse, même pour ceux qui mènent l'enquête encore actuellement. Ce qu'on sait, c'est que déjà à Bongende, ça s'est arrêté dans la mesure où il n'y avait plus personne. C'est-à-dire soit tout le monde avait fui, soit tous ceux qui restaient avaient été tués. Pour Bongende, ça s'est terminé en à peine une journée. Pour Yumbi, qui est une ville quand même beaucoup plus conséquente et avec beaucoup plus de possibilités de fuite, les Banounous, semble-t-il, là encore est-il au conditionnel, ont commencé à riposter, ont commencé à essayer de s'organiser pour mettre en place quelque chose et essayer de combattre ces assaillants. Et il y a cette arrivée de militaires aussi congolais venus de Bolobo, c'est une ville, à 70 km, qui arrive très tard, plus d'une journée après, mais qui arrive pour commencer à pacifier la situation et donc qui mettent un terme à toute velléité de représailles ou de vengeance, en tout cas.
Alors, vous avez rencontré des Banounous, les quelques rescapés qui ont accepté en tout cas de revenir avec vous sur les lieux du drame. Vous êtes aussi allé à la rencontre de Batende, l'autre communauté dans des villages qui comptent surtout des gens issus de cette ethnie. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Est-ce que vous sentez aussi une atmosphère d'après-guerre presque? Est-ce qu'ils se cachent? Est-ce qu'ils sont gênés de vous répondre?
Gênés, ça c'est sûr. En tout cas, des deux côtés, que ce soit Batende ou Banounou, le discours est extrêmement bien rodé. Chacun a ses arguments, et du côté des Batende, en tout cas, on a des éléments de langage qui reviennent dans chaque village. Le droit coutumier n'a pas été respecté. Les Banounous sont arrivés après nous. Ils auraient dû payer une taxe sur les terres qu'ils exploitent, sur le fleuve qu'ils empruntent pour pêcher.
Ça, c'est quand vous leur posez des questions sur les 2 jours de tuerie.
Exactement. La réponse, c'est... ils n'ont pas respecté le droit coutumier, ils nous ont provoqués, on n'est pas dans une dénégation, c'est-à-dire ils ne nient pas qu'il y a eu quelque chose. Par contre, dans chaque village, c'est ici on n'a rien vu, on n'a rien fait. Nous, on n'est pas responsables. Effectivement, on comprend que certains ont pu s'être énervés, ça revient aussi régulièrement. Ils comprennent, oui, tout à fait, c'est normal, mais ils n'ont rien fait.
Et ils n'ont jamais peur finalement que vous les preniez pour de potentiels tueurs? Ils ne craignent pas ça.
Il y a une scène qui est assez. Alors je cherche le mot approprié, mais un silence qui est plus qu'évocateur dans le reportage. C'est-à-dire il y a ce chef de village avec un visage très très fermé. C'est le village que les rescapés nous décrivent comme étant la base de repli, la base arrière, que les épargnés, donc la fameuse enseignante dont je vous parlais tout à l'heure, nous décrivent également. C'est dans ce village qu'ils ont été ensuite emmenés. Donc c'est là où à peu près tout se serait passé, ou en tout cas une partie des événements se serait passé. Ce chef de village répond par bribes et passe le plus clair de son temps d'ailleurs à ne pas répondre, et ce silence est plus qu'évocateur. C'est-à-dire, moi ici j'ai rien entendu. Bongende, c'est à 500 mètres de son village, à vol d'oiseau, on le voit, et lui n'a rien entendu, même pas les coups de feu, rien du tout.
Un massacre donc planifié, on l'a compris, c'est ce qu'il ressort de l'enquête congolaise, mais aussi celle des Nations Unies. Alors pour quel motif? La date des tueries n'est pas anodine. Les 16 et 17 décembre dernier, nous étions à moins d'une semaine de la date prévue pour les élections présidentielles, législatives, provinciales. Elles seront finalement décalées au 30 décembre, sauf dans certaines zones du Nord-Est pour cause d'épidémie d'Ebola, et dans le territoire de Yumbi où elles n'ont toujours pas eu lieu. La date du 31 mars a été retenue. Et pour beaucoup de Banounous, l'origine de la tuerie, elle est politique. Aubin Bobangalé est un habitant de Yumbi. Anthony Fouchard, vous l'avez rencontré.
Souvent, c'est pendant les périodes des élections. S'il n'y a pas les élections, il n'y a pas un problème. Mais si nous, tantôt vers les élections, vous voyez, il y a les exactions, il y a. Toute la population qu'on est tentée de tirer là, c'est la population Nounou. C'est pour dire que c'est une extermination et je qualifie ça, c'est un génocide. Et il y a les auteurs qui ont organisé ce génocide. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est un plat qui date depuis longtemps.
La thèse d'enjeu politique, thèse privilégiée donc par la justice militaire congolaise qui a ouvert une enquête. Nous avons joint ce soir le général Mukuntu, l'auditeur général de l'armée, le numéro 1 du parquet militaire de République démocratique du Congo.
On a ouvert les enquêtes. Il y a 14 personnes jusque-là qui sont en état d'arrestation, qui étaient à Yumbi et que nous avons ramené à Kinshasa le week-end dernier. Il y a des personnes que nous recherchons qui sont encore en forêt. Il y a d'autres personnes qui seraient impliquées, que nous sommes en train d'auditionner. Ça doit avoir été prémédité, compte tenu du nombre des victimes. C'est pas quelque chose de spontané, ça a été prémédité. On a identifié, en termes de décès, 501 personnes exactement. La toile de fond, c'est une querelle entre deux ethnies. Si ça s'est exacerbé, c'est aussi par rapport aux enjeux électoraux. Comme parfois chez nous, on vote tribu. Il y a des candidats qui ont estimé qu'ils risquaient de perdre les élections si les choses restaient dans l'état. Et qu'il fallait faire en sorte que les gens d'une autre tribu puissent se retrouver en infériorité numérique en étant obligés de traverser le fleuve vers l'autre côté du Congo-Brazzaville suite à la terreur qu'ils auraient imprimée. Donc c'est quand même des actes qui me semblent être prémédités.
Voilà, le numéro 1 du parquet militaire de RDC, Anthony Fouchard, en l'occurrence dans le territoire de Yumbi. Est-ce que les massacres de la mi-décembre ont vraiment changé les équilibres politiques ?
Il n'y a plus de Banounou, plus aucun, ou quasiment plus. Ils ont tous fui, soit au Congo-Brazzaville, c'est ce que disait la personne qu'on vient d'entendre, soit un peu au milieu de nulle part, et c'est effectivement le cas, puisqu'ils sont sur des îlots qui séparent le Congo-RDC du Congo-Brazza. Il y a plein de petites îles, c'est un bras de fleuve qui fait 5 ou 6 kilomètres de large, et ils ont fui à la nage ou en pirogue, et ils sont là, au milieu vraiment de nulle part, en train de survivre dans des conditions plus que précaires. En saison sèche, ces îlots sont utilisés pour pêcher, il y a des petites cabanes de pêcheurs sur pilotis. Aujourd'hui, sur certains, ils sont 150, 200, avec des enfants, dans 3 ou 4 cabanes, sans moustiquaires évidemment, et on arrive à la fin de la saison des pluies, donc l'eau n'a pas totalement baissé. Les pieds
donc
dans l'eau.
Là, c'est aussi une grande partie des électeurs du territoire qui n'auront pas accès aux urnes si jamais les élections se tiennent et qu'ils n'ont pas le temps de rentrer dans leur village.
L'organisation des élections le 31 mars, si elle se fait, ce sera quelque chose, hein, sans nul doute, mais tout a été brûlé, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas fui, ils ont perdu leur document d'identité. Donc en tout cas, pour ce qui est de la communauté Banounou, elle n'aura pas accès à ces élections. En grande partie, ils ne sont pas là, ils n'ont pas l'intention de revenir, ou du moins pas tant que la situation ne sera pas 100% rétablie. Aujourd'hui, à Yumbi, les estimations parlent de 40 à 50% de la population encore présente, c'est tout.
Vous donnez des chiffres aussi dans ce reportage sur le nombre d'électeurs justement qui auraient quitté le territoire, qui ne seraient plus en mesure de participer.
Alors on fait une estimation, c'est vrai, de près d'un quart des électeurs dans ce territoire de Yumbi, 67 000 enrôlés à la base, si l'on compte les déplacés, les disparus, ceux qu'on fuit, plus les réfugiés qui sont à Makotimpoko, la majorité au Congo-Brazzaville. On arrive à peu près à ce chiffre d'un quart de personnes qui ne pourront pas voter.
Alors une équipe de la commission électorale, la CENI, est arrivée sur place aujourd'hui pour faire le point sur les conditions, dans ces villages-là, savoir si oui ou non les élections vont pouvoir se tenir le 31 mars. Et selon la mission des Nations Unies, rien n'est encore fait pour le retour des déplacés. Anthony Fouchard, le 31 mars, pour vous, ça paraît impossible de tenir des élections dans ces conditions ?
Il n'y a plus de structure, en fait. Alors, il y a bien des machines à voter. Ça, pour le coup, on les a vues. Elles sont là, dans leur boîte. Elles n'ont pas été brûlées, celles-ci. La commission électorale, par contre, a été complètement ravagée, saccagée. Et là, on ne parle que d'Yumbi. C'est sans parler des autres villages qui ont été désertés. J'ai du mal à être optimiste sur l'organisation d'élections au 31, effectivement.
Merci beaucoup, Anthony Fouchard. J'invite nos auditeurs à revoir votre reportage en replay sur le site de la chaîne TV5 Monde. Merci à toute l'équipe de décryptage, Éléonore Krenik, Simon Carteret et Fabrice Violet à la réalisation. Dans un instant, un journal Afrique sur RFI.